فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها.
الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم آتي أنفسنا تقواها وزكيها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وكنتينو إن شاء الله تبارك الله تبارك وتعالى، وبالله التوفيق avec la l'explication de la risala, de l'épître de l'imam Al-Ajurri, rahimahullah, rahmatan wasi'a, concernant l'éducation de l'âme. Et on avait rappelé lors du dernier cours, et là on va traiter le dernier cours pour finir l'explication de cet épître aujourd'hui, incha'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc ça sera, ce soir on traite le sixième cours et le dernier cours de cet épître. Et on avait traité lors du cinquième cours, donc l'avant-dernier cours, ici de la métaphore, l'image qu'a donné l'imam Al-Ajurri rahimahullah ta'ala, et il nous a rappelé que éduquer une âme, c'était comme éduquer un poulain. Et on avait rappelé des règles d'or et un principe en or qui était pris en compte chez celles et ceux qui éduquent les poulains, qui dressent les poulains. Et il disait qu'il faut demander peu, recommencer souvent, récompenser beaucoup, utiliser de la douceur et utiliser aussi de la fermeté. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'éducation de l'âme. Celles et ceux qui veulent éduquer leur âme, an-nafs, c'est celle qui te suit de jour comme de nuit. Même si elle te déplaît, tu ne peux pas divorcer avec elle. Même si tu ne la supportes plus, tu ne peux pas te séparer d'elle. Même si tu veux te séparer d'elle, tu ne peux pas te séparer d'elle. Et c'est elle ici qui te mènera bi-idhnillah vers le paradis ou bi-idhnillah par la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala vers l'enfer. Donc celui qui a réussi à éduquer son âme, c'est celui qui a réussi. Voilà pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala a dit qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Donc a certes réussi celui qui l'a ici purifié. Donc éduquer l'âme, réussir à éduquer l'âme, c'est pouvoir l'éduquer. C'est tazkiyatun nafs. C'est ça éduquer une âme, c'est purifier son âme. Et le fait d'éduquer son âme, ici, c'est un principe important dans la vie du croyant, et ça a pour objectif d'atteindre l'ihsan. C'est ça le but, quand on éduque notre âme, c'est le but, c'est d'atteindre l'ihsan. C'est d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala, ka'annaka tarah, comme si tu le voyais, mais si tu ne le vois pas, lui il te voit. Et le prophète alayhi salatu wa salam, baissez le son, barakallahu fikum. Et le prophète alayhi salatu wa salam a rappelé que l'éducation de l'âme, eh bien, c'est ça, ça consiste à quoi? À atteindre l'ihsan, d'adorer Allah comme si tu le voyais. Si tu ne le vois pas, certes, que, sache que lui, il te voit. Donc, celui qui veut savoir est-ce qu'il a atteint un haut degré dans la spiritualité, dans la purification de l'âme, dans l'éducation de l'âme, eh bien, qu'il regarde son comportement quand personne ne le voit, si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. S'il réagit de la même manière que quand les gens le voient, certes, alhamdoulilah, il a éduqué, purifié son âme. Tu sais, il n'a plus à plaire aux gens. Il n'a plus à plaire ou à chercher les éloges des gens, mais il a compris que ce qui lui incombait principalement, c'est de satisfaire Allah tabaraka wa ta'ala. Peu importe, les gens me regardent ou pas, les gens vont me faire des éloges ou pas, moi je veux purifier mon âme, je veux atteindre al-ihsan. Et pour atteindre ce degré, c'est un effort intérieur qu'on fait. Et ce n'est pas un effort extérieur apparent qu'on fait. Combien de gens de façon apparente, comme dit le fameux dicton, hein, ici de rue si on veut quelque part, il ne paye pas de mine. Mais quand tu vois son comportement, sa relation avec Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien tu vois que c'est un muhsin, c'est un bienfaisant. Et d'autres personnes, de façon apparente, tu te dirais, celui-là, subhanallah, il a les critères d'un compagnon sahabi par rapport à son apparence physique. Walakin, si tu regardes son fort intérieur, eh bien malheureusement, tout est pourri. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salam fait sahih muslim a dit « Inna Allah la yanzuru » Allah jalla wa ala ne regarde pas « Ila suwarikum » vos apparences ni vos biens. « Walakin yanzur » mais il regarde vos cœurs, ce que renferment quoi ? Vos poitrines et bien sûr vos actions. Donc retenez ce principe-là. Celui qui veut éduquer son âme, qu'est-ce que éduquer son âme ? Attendre l'ihsan, c'est la purification. « At-tasfiyah » Et c'est pour ça que beaucoup qui sont dans la mouvance des soufis parlent de cela. Et si on comprend at-tasawwuf ainsi, pour nous at-tasawwuf c'est la purification de l'âme afin d'atteindre l'ihsan, loin de toute hérésie et sans rentrer dans un excès quelconque, eh bien ce tasawwuf là, on est pour. Et on est d'accord avec cela. Et cela est demandé. Et c'est ce tasawwuf qu'on cherchait à sahaba, les compagnons, et celles et ceux qui ont marqué l'histoire. Et c'est ce qui est demandé. Maintenant, comment éduquer son âme ? On a cité tout au long de cette série-là plusieurs moyens, mais parmi les moyens principaux et que toutes et tous peuvent faire, c'est d'accorder de la douceur à son âme, des moments de plaisir, de détente. C'est d'agir avec fermeté aussi avec son âme. Et c'est d'être régulier avec son âme. Si tu as retenu ces trois choses-là, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, tu vas éduquer sereinement ton âme et incha'Allah ta'ala, tu parviendras ici à mourir sur une situation qui plaira à Allah tabaraka wa ta'ala, car tu auras réussi à arriver en fin de marathon parce que tu as été régulé, tu ne t'es pas essoufflé. Donc la régularité dans toute chose, hein, dans toute chose, la régularité, sans trop exagérer, la douceur, des moments de détente, de douceur pour l'âme, pas trop là. Elle ne tiendra pas l'âme. Elle ne supportera plus rien. Elle lâchera tout si tu es trop dur avec elle. Des moments de douceur, etc. De détente, qu'elle se repose, qu'elle prenne du bon temps, comme du sel dans un plat, bien sûr. C'est ce qui apporte le goût. Mais si tu mets trop de sel, le plat, tu peux le jeter. Et aussi de la fermeté, parce qu'il n'y a pas le choix. Tu veux éduquer, tu dois agir avec de la fermeté. Et si tu respectes cela, et bien, ibnillah azza wa jal, dans tous les domaines, tu réussiras, incha'Allah ta'ala. Regardez, prenez juste le Coran, al-hifz, l'apprentissage. Juste un exemple concret. Alors, il y a des personnes qui veulent en faire trop. Dès qu'ils commencent à lire le Coran, alors tu les vois, ils sont super motivés. Souvent, shaitan rentre par cette porte-là. Comme disait Ibn al-Qayyim, shaitan rentre par une des deux portes. Soit te faire rentrer dans l'excès, soit te faire tout abandonner. Alors, tu le vois, il se dit, je vais apprendre vite. Et il a une certaine facilité due à son engouement et sa motivation au début. Parce que, attention, plus tu es optimiste dans la vie, et plus tu te dis j'y arriverai, et plus t'en veux, plus tu réussis. D'accord ? Enlève le côté religieux. Hein. Je ne te parle pas de il faut deux A pour réussir, il faut tout ça est impératif. Mais même un non-musulman, plus il va être optimiste, il a confiance en lui, et il en veut, et plus il a de chances de réussir. Et plus une personne est pessimiste et dit je n'arriverai pas, et moins il a de chances de réussir, c'est comme ça. Voilà pourquoi une personne qui dit je vais réussir et il en veut vraiment, il est motivé, au début il va apprendre le Coran assez facilement et rapidement même, parce qu'il en veut tellement. D'accord ? Et donc il va apprendre une page peut-être par jour, il va se dire je vais apprendre une page par jour dès le début. Une page, deux pages, trois pages, quatre pages, c'est bien, ça marche bien. Ah, là, le week-end, je vais faire un peu de révision. Après, voilà, ça s'accumule. 8 pages. 8 pages, 12, 16 pages. Il commence à être noyé parce qu'il y a des moments, l'âme, il ne faut pas rêver. Il y a des moments, l'âme, tu as beau être qui tu veux, il y a des moments où il y aura des relâchements. Voilà pourquoi il faut profiter quand tu es motivé. Parce qu'il y a des moments où tu seras motivé pour faire des prières surérogatoires, d'autres moments, non. Des moments où tu seras motivé pour faire des bonnes actions, d'autres moments, non. Donc profite quand tu as un nashat, quand tu as cette vivacité, tu as cette ardeur. Elle vient à des moments, d'autres moments elle ne vient pas, on est des êtres humains, tout le monde est comme ça. As-sahaba, ici certains sont partis voir Umar ibn al-Khattab, je pense que c'était Handala, qui avait dit à Amir al-Mu'minin, je crois que nafaqa Handala, je crois que je suis hypocrite. Je dis pourquoi ? Il dit, wallah, quand on est avec le prophète, alayhi salatu wassalam, notre foi l'augmente, masha'Allah. Mais quand on quitte le prophète, alayhi salatu wassalam, je sens que ma foi descend. Umar l'a dit, bah, je crois moi aussi je suis hypocrite. Ils sont partis voir le prophète, alayhi salatu wassalam, et lui, le prophète a dit, si vous aviez le degré de foi que vous avez quand vous êtes avec moi dans les assises de science, de façon constante, même en dehors de ces assises, les anges viendraient vous serrer la main. C'est normal. La foi, elle augmente, la foi, elle baisse. Quelquefois, tu as cette ardeur, cette motivation, quelquefois, tu l'as moins. Mais donc, ici, la personne, quand elle apprend le Coran et elle est très motivée, elle va à fond au début. Et après, elle tombe dans ce moment-là où il n'y a plus cette ardeur-là, elle commence à lâcher. Et après, elle veut reprendre, elle dit, attends, je vais revenir dans ce que j'ai appris. Mais il a appris 16 pages d'un coup. Et donc, il se dit, oh là là, j'ai commencé à avoir des trous. Parce qu'il s'est précipité, Mskin. Il a oublié que dans l'apprentissage, 70% du travail, c'est la révision, c'est pas l'apprentissage. Et donc ici, il est dépassé, il est démoralisé, oh là, il faut que je revienne. Et après, il n'arrive plus à... Et voilà, il stagne. C'est vrai ou pas? Il y en a plein qui sont comme ça, dans beaucoup de sujets. Et il y a d'autres personnes qui disent, je ferai après, j'apprendrai après. Il passe 8 ans, il a toujours pas fini Juz Amma. Et il y a d'autres personnes qui disent, écoute, Akhoya, moi je vais doucement. D'abord, je révise mon intention avec Allah Tabaraka. Est-ce que je le fais vraiment cet apprentissage pour satisfaire Allah? Parce que je sais qu'au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jal dira, récite et monte les degrés. Certains disent, c'est ce que tu réciteras par cœur. D'autres, c'est ce que tu as lu, etc. À la kulli hal, je veux prendre la récompense divine, etc. Et ensuite, il se dit, je vais selon mon niveau. Et je mets un programme. Adwamuha wa in qal al-mudawama. La régularité, même si c'est minime. Et il se dit, chaque jour, j'apprends juste un verset. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, j'arrête. Un verset par jour. Tout le monde a les capacités, bienvenue. Vendredi, samedi, dimanche, je révise mon Coran que j'ai appris. Laisse-moi tranquille, je ne veux pas apprendre une page par jour, je ne veux pas apprendre deux pages par jour, je n'ai pas les moyens. L'aralep, c'est comme ça. Je suis comme ça, j'ai la motivation, mais je ne veux pas aller au-dessus de mes capacités. Et tu verras cette personne-là, s'il est régulier, wallah, il rendez-vous dans 6 mois. Celui qui apprenait une page par jour, il aura tout abandonné, tout oublié. Celui qui apprenait une ligne par jour avec un programme minime mais régulier et ici sans surcharger son âme, tu verras que peut-être il sera passé à 2-3 lignes par jour ou alors il sera resté ainsi, mais alhamdoulilah, il aura été régulier. Et dans toute chose, c'est comme ça. Mais par contre, celui qui se dit « j'apprends un verset par jour », le jour où son âme lui dit « oh non, repose-toi aujourd'hui », il va lui dire quoi ? Il n'y a pas de repos aujourd'hui, la fermeté, parce qu'il a été déjà assez douce avec elle. Vous comprenez ? La douceur avec l'âme. Et par contre, quand tu veux ici appliquer une chose, eh bien de la fermeté. Parce que tu sais que tu n'as pas appliqué quelque chose qui est trop lourd pour toi, au-dessus de tes capacités. Là, il faut de la fermeté. Et c'est comme ça, avec cette gymnastique-là, spirituelle, que tu arriveras, bi-idhnillah et tabaraka wa ta'ala, à avancer. Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, donne un autre exemple, une autre image. Il dit, l'âme est une montagne élevé. Il donne l'exemple de l'âme. Il dit c'est comme une montagne élevée sur le chemin qui mène vers Dieu. Ah, donc toi tu te diriges vers Dieu et sur le chemin tu trouves une grande montagne élevée, c'est l'âme. Ensuite, il dit tout cheminant n'a d'autre voie que celle menant au-delà de cette montagne. Tu n'as pas le choix. Tu es sur le chemin qui va vers Dieu, tu n'as pas le choix. Riche, pauvre, noir, blanc, faible, peu importe, croyant, non croyant, tu es obligé de passer par cette montagne et aller jusqu'au sommet si tu veux continuer ton chemin. Et il dit, il lui faut donc passer par là, bon gré mal gré. Mais pour les uns, ce cheminement est très difficile et pour d'autres, il est facile. Il s'agit d'une montagne remplie de vallées, de passages étroits, de crevasses, d'obstacles, de toutes sortes d'obstacles et de brigands qui coupent la route aux voyageurs, notamment à ceux qui cheminent la nuit. Aussi, s'ils n'ont pas l'armure de l'Iman, l'armure de l'Iman, l'armure de la foi, et s'ils n'ont pas emporté avec eux les lampes de la certitude pour se diriger la nuit al-Yaqin. Les lampes de la certitude qui puisent leur énergie dans l'huile de l'humilité, at-tawadu', et la concentration, al-khushu', ils risquent de s'égarer et de s'exposer aux dangers mortels. Rahimahullah ta'ala. Ibn al-Qayyim, c'était un médecin du cœur. Et on sait très bien qu'il a marqué les esprits ici depuis son existence jusqu'aujourd'hui à travers toutes ses paroles et ses paraboles et ses images. Et surtout dans l'éducation de l'âme. Et il dit pour traverser cette montagne, c'est-à-dire pour pouvoir combattre ton âme et pouvoir continuer à cheminer vers Allah tabaraka wa ta'ala, eh bien sache que cette âme-là, c'est comme une montagne parsemée d'embûches, de chemins étroits, de brigands qui veulent couper la route la nuit, quand tu ne vois rien. Eh bien, pour cela, pour réussir facilement cela, tu dois t'armer de quoi ? Al-Iman, la foi. Travaille ta foi, Al-Iman. Celui qui n'a pas de foi ne pourra pas combattre son âme. Ce n'est pas possible. Et la foi, ça se travaille. Et la foi, c'est un trésor que tu dois cacher, car il est facile à dérober par Shaitan et par l'âme instigatrice au mal. Donc, par la foi de Al-Iman, les lampes de Al-Yaqin, la certitude, Billahi tabaraka wa ta'ala, et l'huile de l'humilité, eh bien, tout cela t'est indispensable afin de combattre ton âme et pouvoir avancer, inshallah wa ta'ala. Naam.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil mursalin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن مخلد العطار حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو مقاتل يعني حفص بن سلم
حدثنا لا 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 t'as passé quelque chose là أخبرنا أبو بكر
أخبرنا أبو
جعفر ابن محمد الصندلي
أخبرنا أبو بكر حدثنا جعفر بن محمد الصندلي قال سمعت أبا الحسن محمد بن أبي الورد يقول قال وهب بن منبه النفس كنفوس الدواب والإيمان قائد والعمل سائق والنفس يقول
والنفس حارون
والنفس حارون فإن قتر قائدها
فإن فتر
قائدها حرنت على سائقها وإن فتر سائقها ضلت على الطريق أخبرنا أبو بكر حدثنا أبو عبد الله بن محمد بن مخلد العطار حدثنا أبو الحسن علي بن إبراهيم بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو مقاتل يعني حفص بن سلم حدثنا عون بن أبي الشداد عن الحسن في وصية لقمان لابنه يا بني لا تنتفع بالإيمان إلا بالعقل فإن الإيمان قائد والعمل سائق والنفس حرون فإن فتر سائقها ضلت عن الطريق فلم تستقم لصاحبها وإن فتر قائدها حرنت فلم ينتفع سائقها.
نعم. Ici, Al-Mu'allif, rahimahullah ta'ala, il dit une parole et il reprend ensuite la parole en citant de qui elle vient. Et cette parole-là vient de Luqman. Luqman al-Hakim. Luqman al-Hakim est cité dans le Coran al-Karim lorsqu'il donne des recommandations à son fils. Dans Sourate Luqman. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala a cité Luqman comme étant un homme sage. C'est pour ça qu'on dit Luqman al-Hakim. Certains considèrent que c'était un prophète, voilà qu'une majorité disent que c'était un homme sage, vertueux, pieux, qui a donné des conseils qui ont été ici mentionnés dans le Coran al-Karim. Ensuite, il y a plusieurs textes qui sont rappelés, rapportés et qui sont attribués à Luqman. Certes, il y a des textes qui sont rapportés et attribués à Luqman, dont les chaînes de transmission sont faibles. Et comme dans cette chaîne de transmission-là qu'a cité l'auteur, certains savants considèrent qu'elle est faible. Mais de toute manière, ce n'est pas un récit prophétique attribué au prophète alayhi salatu wassalam, premièrement. Et deuxièmement, rien de mal à le citer, tout en sachant que c'est des paroles sages et qu'ils ne s'opposent pas au Coran ou à la Sunna ou aux finalités de l'islam. Voilà pourquoi il est important de les citer. Et le mu'allif, rahimahullah ta'ala, rapporte ces paroles-là, donc attribuées à Luqman, qui dit « Ya bunay, la tantafi' bil iman illa bil aql » Et ça, c'est extrêmement important. Il dit « Oh mon enfant, tu ne pourras profiter de l'iman illa bi al-aql. » Al-aql, c'est quoi ? C'est la raison. Donc nous avons al-aql, nous avons al-qalb, nous avons al-nafs, et nous avons al-nas, ou bien al-naql, c'est les textes. Donc al-aql, la raison, c'est quelque chose de noble. Alors nous, en tant que croyants musulmans, nous reconnaissons qu'il y a deux excès. Il y a le premier excès qui est que certaines personnes vont dire que la raison, c'est le maître de tout. C'est-à-dire, c'est elle qui doit diriger tout, et c'est elle et seulement elle qui a une emprise sur nous-mêmes, et on se doit de se référer simplement à elle. Il n'y a que la raison, et la raison est même capable d'interpréter sans aucune base des textes. Et c'est ce qui s'est passé ici dans les siècles qui nous ont précédés, hein, et chez beaucoup de philosophes, en disant que Dieu nous a donné une raison. Et certains ont divergé, certains ont dit qu'à partir des textes déjà révélés, on peut donner une interprétation de nous-mêmes venant de notre raison, sans aucun appui autre que le texte révélé. Comme il y a eu des grands conflits avec John Locke, Descartes, etc. Et d'autres ont dit non, même le texte on l'écarte, on n'a besoin d'aucune quoi matière, on n'a besoin d'aucun texte. Notre raison est capable même de produire un texte. Et ils ont divergé sur cela. Et ils sont rentrés en querelle. Et on retrouve ça aujourd'hui en islam. Il y a des musulmans qui vont, chacun pense ce qu'il veut après, mais certains musulmans vont prétendre que eux, leur raison a pris une telle place pour eux qu'elle est capable d'interpréter n'importe quel texte sans aucune aide, assistance, si ce n'est le texte lui-même. Donc ils prennent le Saint-Coran et ils disent j'utilise simplement ma raison et j'interprète le Coran. D'accord ? D'autres ont dit même non, le Coran même, il faudrait, c'est un texte à la base sacré, mais il est sacré pas de façon complète dans le temps. Et nous, on est capable de pouvoir abroger tel ou tel verset. Et cela, en tant que croyants, nous considérons que c'est un égarement. Après, il y a d'autres personnes qui sont rentrées dans un autre excès et qui ont prétendu que l'aql n'a aucune importance, la raison n'a aucune importance. Alors tu lis, tu te tais et t'appliques. Donc ton cerveau, tu ne réfléchis plus avec. On a dit ça dans un verset coranique, ne va pas plus loin, c'est comme ça. Et s'il y a une nouvelle situation, si on est en 2017, non, tu ne prends pas en compte, peu importe la situation. Et si elle, non, on ne veut rien entendre. On veut que le texte, tu le lis, tu l'appliques, ni plus ni moins. Ça, c'est un égarement encore. Car déjà, même à l'époque, ici, des tabi'in, des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, eh bien, des nouvelles situations sont intervenues, ce qui a fait qu'ils ont été obligés de faire un ijtihad, un effort d'interprétation. Et après, de là, ils ont rebondi sur d'autres supports que le livre d'Allah, le Coran et la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Parce qu'il n'y avait pas les réponses directes sur la situation qui les concernait. Et oui, Dieu a dit ça, mais nous, notre situation maintenant, la réponse, elle n'est pas stipulée clairement. À l'époque du prophète, le prophète avait une révélation, c'était clair. Donc comment on fait maintenant? Aujourd'hui, on a les avions. Il y a un verset coranique qui te dit, si tu es dans un avion et l'avion va vers là, la qibla est là. Ou là. Il y avait des situations qu'il n'y avait pas à l'époque du prophète. Et il y avait des réponses déjà à leur époque, qu'il n'y avait pas directement dans le Coran ou la Sunna. Ils ont fait un effort d'interprétation avec le livre d'Allah, la Sunna. Ils ont rajouté d'autres fondements. À titre d'exemple, Al-Qiyas, l'analogie. Cette situation est analogue à l'autre situation qui avait été vécue. D'autres, ils ont... Et voilà, les fondements ont commencé à être mis en place. Les qawa'id, des règles ont été mises en place, etc. Et chaque école juridique a mis en place des fondements ou a interprété différemment des règles de jurisprudence ou des fondements du droit. C'est l'ilm. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc certaines personnes prétendent que si toi tu n'utilises pas ta raison afin d'interpréter de toi-même le Coran, tu es un arriéré et tu es un littéraliste. Non, on est contre le fait de lire et d'appliquer bêtement sans mettre l'accent sur l'importance de l'aql, la raison. Réfléchis. Quand on te parle, analyse selon tes moyens et selon les outils que tu as. C'est pas n'importe qui va analyser aussi et dire moi je réfléchis, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Faut que tu aies des outils aussi, un bagage scientifique. Mais nous disons que l'aql a son importance et on doit faire travailler notre jugeot et quelquefois avoir un esprit critique par rapport à ceux qui ne sont pas infaillibles. Je ne dis pas par rapport à ceux qui sont infaillibles, tels les prophètes et les envoyés. Mais quand on fait une critique religieuse, il faut qu'on soit parmi les personnes qui ont un bagage religieux. Tu ne vas pas débattre et faire un effort d'interprétation dans de la médecine ou dans un sujet de médecine ou avec un médecin, alors que tu n'as même pas fait 3 ans de médecine. C'est logique. Alors que dire de la science religieuse, la religion de Dieu? Ok, fais travailler ta raison. Ok, aie un esprit critique. Ok, effort d'interprétation. Par contre, sois au niveau. Ne va pas me prétendre parce que tu es docteur. Docteur de quoi? Docteur, oui, docteur. Certaines personnes, parce qu'ils ont été docteurs en chimie ou je ne sais quoi, eh bien, quand ils parlent dans un sujet religieux, ils disent « Oui, moi, je suis docteur. » Mais docteur quoi? Dans sharia, dans la législation, dans l'islam. Ah, en chimie, je deck avec la...
C'est trop facile, docteur. Oui, t'es docteur dans quoi? Il faut éclaircir ces sujets-là. Donc ici, ce sont les gens de science qui s'expriment sur ces sujets-là. Et ici, l'iman, la foi, a besoin de la raison. Et ton âme, c'est quoi qui va t'aider à l'éduquer? C'est ta raison, ya Abdallah. Allah tabaraka wa ta'ala nous a donné ce bienfait de l'aql, ce qui nous différencie de quoi? Al-baha'im, les bestiaux, les animaux. Est-ce que les animaux ont une raison? Les animaux ont une raison, on peut dire, et ils n'ont pas aussi une raison. C'est-à-dire, les animaux, si on comprend que leur raison, c'est un instinct que Dieu leur a donné afin de pouvoir se diriger, d'être guidés par la permission de Dieu vers ce qui leur est utile. On est d'accord? Oui, ils ont une raison. D'accord? Mais si on parle par raison, de la même raison que l'être humain a, ce qui lui permet de distinguer entre ce que Dieu aime et ce que Dieu n'aime pas, et lui permet de se rapprocher de Dieu, et de croire en Al-Ghaib, avoir la foi en Al-Ghaib, eh bien là non. Ça c'est quelque chose qui est propre aux êtres humains, ce qui fait d'eux des gens responsables. Quand tu es responsable, Mukallif, ça veut dire que tu devras rendre des comptes au jour de la résurrection. Est-ce que les animaux vont rendre des comptes au jour de la résurrection? Non. Mais de par la justice et l'équité parfaite de Dieu, Allah tabaraka wa ta'ala dit qu'il apportera quand même deux bêtes, une cornue et l'autre qui n'était pas cornue, afin de rendre des comptes au jour de la résurrection, avant de devenir poussière. Et Allah azza wa jal, eh bien, permettra à la bête qui a mangé un coup de corne de rendre le coup de corne. L'équité, la justice. Et ensuite, Allah azza wa jal dira, soyez poussière. Et c'est à ce moment-là que les personnes qui n'ont pas adoré Dieu et qui ne se sont pas rapprochées de Dieu en faisant le bien et en s'écartant du mal, regretteront et diront, ya laytani kuntu turaba. Oh, malheur à moi, si seulement j'étais poussière. Quand ils vont voir que les animaux vont devenir poussière. Pourquoi Allah tabaraka wa ta'ala ne va pas juger les animaux sur ce qu'ils ont fait de bien ou de mal afin de les rétribuer par le paradis et l'enfer d'après la croyance musulmane? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu cette raison qui a fait eux des personnes responsables. Une raison qui a provoqué le fait de pouvoir distinguer entre le bien et le mal et de croire al-iman bil-ghaib dans l'invisible. Ils n'avaient pas ça les animaux. Vous comprenez? Donc al-aql, c'est un cadeau de Dieu. C'est un bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tu dois utiliser al-aql pour différencier ton âme de l'âme bestiale. Parce que des personnes ont la raison, mais quand tu regardes le résultat de l'âme, elle n'a pas une grande différence avec l'âme d'animaux. C'est-à-dire que l'animal, il se comporte quelquefois sans aucune limite. D'accord? Eh bien, quelquefois, l'être humain peut se comporter dans différents sujets sans aucune limite, partir à l'excès. Voilà pourquoi toi, tu dois comprendre que Dieu t'a donné ce cadeau, une raison. Eh bien, réfléchis, débat et un esprit critique selon ton niveau, dans ton domaine, en restant à ta place et utilise ce bienfait, ce cadeau divin. Et même la foi, dans un contexte religieux, la foi a besoin de l'aql, elle a besoin de l'iman. L'éducation de l'âme a besoin de quoi? De l'aql. Afala ta'qilun. Combien de fois Dieu parle de l'aql, la raison? Et il nous rappelle que pourquoi ne raisonnez-vous donc pas, ayyuhal uqala, pour nous rappeler qu'il est demandé de raisonner, donc de penser, de réfléchir. Et ne sois pas toujours quelqu'un qui va te dire, on m'a dit, je me tais, je baisse ma tête. Non, réfléchis. Et toi aussi, fais travailler ici tes ménages, mais toujours, comme j'ai dit, en restant à sa place. Et il rappelle la parole de Luqman, qui est attribué du moins à Luqman, bien que le texte soit considéré comme certains comme faible. Et il dit, les âmes des bestiaux, ou les âmes sont comme les âmes des bestiaux. C'est-à-dire, il dit, il faut les éduquer comme on éduque des bestiaux. On a vu, on pourrait comprendre cela comme ça, comme on éduque des animaux, et à titre d'exemple, le poulain. Et aussi, on peut dire aussi, les âmes sont comme les âmes des bestiaux. C'est-à-dire, à la base, on avait dit les âmes des bestiaux, il n'y a pas de limite, entre guillemets. C'est, comme on dit, la loi de la jungle. C'est moi, j'ai faim, je mange, rien à faire. Ce que je trouve devant moi, je le... je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Mais le moins, vous savez comment réagissent les bestiaux et les animaux. Donc, ici, parce que leur âme, elle n'est pas contrôlée, quelque part. Et l'âme aussi, elle ressemble quelque part à la base aux âmes des bestiaux, parce qu'elle aspire au quoi? Elle tend vers quoi? La facilité, elle aime le mal, elle aime la paresse, elle aime se laisser aller, elle aime... C'est pour ça que toute personne, tout être humain, même non musulman, il sait très bien qu'il faut se prendre en main. C'est vrai ou pas? Il dit, reprends-toi en main, réagis, te laisse pas aller. On connaît ces phrases ou pas? Ça veut dire quoi? C'est comme s'il disait, ne laisse pas ton âme partir, laisse pas ton âme te guider vers la paresse, ne laisse pas ton âme te pousser au suicide, reprends-toi en main. C'est quoi reprends-toi? Je reprends quoi en main? Reprends ton âme en main, ni plus ni moins. Donc ici, on a besoin, tout être humain a besoin de... Et pour t'aider à la prendre en main, eh bien c'est l'aql, la preuve, toi tu peux. L'animal, il ne peut pas, sauf sur ce qu'il a été ici prédisposé à faire. Ok? Et Dieu lui a donné cet instinct afin d'être guidé vers ce qui lui est bénéfique et avoir certaines limites aussi. D'accord? Mais il n'a pas cette liberté de raisonner et cette faculté de raisonner comme l'être humain l'a. Donc c'est pour ça qu'il faut se différencier des bestiaux en réfléchissant. Et si tu ne réfléchis pas, il y aura presque plus de différence quelque part avec toi et l'animal. Et c'est pour ça Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am ash wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika hum al-ghafilun. Ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Ceux-là sont-elles ici des bestiaux? Pire encore. Pire encore. Pourquoi pire? Parce que l'animal, il est excusé. L'animal, il a pas la raison comme toi tu l'as. Pire encore. Oulaikahumul ghafilun. Ghafilun, c'est les insouciants. C'est ceux qui sont, quand on dit quelqu'un qui est ghafil, c'est quoi? Quelqu'un qui se laisse aller, il fait pas attention. Vous comprenez? Donc si tu te laisses aller, si tu fais pas attention, si tu restes pas sur tes gardes avec ton âme, sache que ton âme sera telle l'âme de l'animal. Et il dit la différence, d'après les paroles de Luqman, la foi est un guide. Al-iman ou qaïd. Al-iman, on parle de quoi? Al-iman ou qaïd. Mais al-iman a besoin du cerveau. Parce que ta foi va augmenter par l'instruction, la connaissance qui est Allah. Et pour ça, tu es obligé de faire travailler quoi? Ton cerveau. Réfléchis, apprends. Et quand tu vas apprendre à connaître qui est Allah Azza wa Jal, et l'éducation, c'est un ensemble de quoi? De connaissances, on a dit. Quand tu éduques ton âme, il faut du ilm, de la science. Et pour la science, il faut l'aql. T'as déjà vu, toi, un lion qui prend un livre et qui apprend l'ilm ou l'aqidah? Toi, t'es pas un lion. Toi, t'es un être humain. Voilà pourquoi, toi, va prendre des livres et lis. Fais ce que l'animal ne peut pas faire. Donc, ici, tu dois t'instruire. Et par l'instruction. Et cette instruction, eh bien, sera bénéfique à toi, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, après que tu aies fait travailler ta raison, ta foi augmentera. Et ta foi sera wal-imanu qa'id. C'est la foi qui est le guide. La foi te guidera, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala. Et il dit, et les actions, al-a'mal, conduisent vers Allah. Donc on a la raison, on a la foi, on a les actions, parce qu'on ne peut pas dire que al-imanu fil qalb. Non, les actions, il faut prouver aussi, c'est trop facile. Ya Allah, je t'aime. Prouve. Tu vas dire à ton épouse, à tes enfants, à tes parents, je vous aime. Mais par contre, tu ne fais rien de bien envers eux. Et tu ne fais rien qui les satisfait. Kadhab, c'est du mensonge. Donc, al-a'mal, c'est prouver. Et c'est ici, mettre en application ce qu'on renferme ton cœur. Et les actions conduisent vers Allah. Et l'âme est acharnée, têtue, obstinée, paresseuse, haroun. C'est-à-dire, elle réunit toutes ces caractéristiques. D'accord? C'est-à-dire que c'est, et il insiste encore, c'est une âme acharnée, paresseuse, obstinée, têtue, qui aime bien se laisser aller, lourde, etc. C'est comme ça l'âme. Et il rappelle que l'âme, elle est comme ça. Et il dit, si son guide, c'est-à-dire al-iman, s'affaiblit, elle refusera d'être conduite par les actions. Et si celui qui l'a conduit, c'est-à-dire les actions, s'affaiblit aussi, elle s'égarera sur le chemin. Ajib. Donc on voit que l'un ne va pas sans l'autre. Il ne faut pas affaiblir tes actions, il ne faut pas affaiblir ta foi, et il ne faut pas affaiblir ta connaissance. Et ça, c'est extrêmement important afin d'éduquer son âme. Donc, al-iman passe par al-ilm. Apprends, ta foi augmentera. Il n'y a pas de secret. Lis, ta foi augmentera. Apprends à connaître ton Seigneur, ta foi augmentera. Écoute, enrichis-toi de connaissances Et la connaissance est demandée dans toute science, que ça soit religieuse ou profane. Toute chose, c'est bien, la connaissance, c'est bon. Contrairement à la paresse intellectuelle. C'est quoi la paresse intellectuelle? C'est encore de se laisser aller. C'est-à-dire que tu ne fais pas d'effort et tu emmagasines sans faire d'effort. D'accord? On ne peut pas être médecin en s'allongeant et regardant des émissions à la télé. Il ne faut pas rêver. On n'a jamais prétendu être un savant, même musulman, en restant devant une télé comme ça ou devant un livre et même pas à peine bouger et rester comme ça. Ce n'est pas possible. Mais par contre, on peut être un paresseux intellectuel en allumant la télé, rester regarder 7 heures de télé par jour. Là, il n'y a pas de problème. À part devenir paresseux intellectuellement, tu vas devenir quoi? Dites-moi quelqu'un qui a réussi à atteindre un certain niveau social ici en regardant la télé 8 heures par jour. Dites-moi, on peut atteindre quoi comme niveau? On peut devenir quoi? Si on peut, khlas, on va tous allumer la télé chez nous pendant 8 heures. Je dis pas que la télé est haram ou que ça dépend ce que tu regardes. Mais regarder 7 heures de télé, qu'est-ce que ça va vous apporter? Contrairement à lire des livres pendant 7 heures, à écouter des cours pendant 7 heures. C'est connu. À étudier pendant 7 heures par jour, tout simplement. Donc ici, apprends. Plus tu apprends, plus tu t'éloignes de la paresse et plus tu éduques ton âme. Parce que ton âme n'aime pas. Prends le mushaf et dis-lui à ton âme au début. Allez, maintenant, il faut lire 5 pages ou il faut lire un hizb. Tu vas voir la lourdeur. Mais quand tu es lancé, Allah Azza wa Jal dit dans le hadith Qudsi, si tu fais un pas vers moi, je cours vers toi. Quand tu es lancé, ça y est, ça part, même tu es content. Là, tu commences à sentir an-nashat, l'ardeur, la motivation, la vitalité. C'est vrai ou pas? Au début, c'est lourd. Mais dès que tu es dedans, alhamdoulilah, même après, tu dis alhamdoulilah que je l'ai fait. Eh bien, c'est ça, combattre son âme. C'est quand elle ne veut pas, tu lui dis tu ne veux pas, eh bien, tu vas le faire. C'est dur, mais sache que dès que tu fais un effort et tu fournis un effort qui est difficile au départ, sache obligatoirement que les fruits seront sucrés, que tu vas l'apprécier, inshallah ta'ala, après. Tandis que quand tu te laisses aller, au début tu te sens bien, mais les fruits seront amers. Il n'y a pas de secret. Donc plus tu te laisses aller au début, plus tu vas récolter des fruits amers. Plus tu fais des efforts au début et c'est difficile, et plus les fruits seront sucrés, inshallah ta'ala. Et il a commencé par une chose importante, c'est quoi? Al-aqidah, le dogme, la foi, al-iman. Et ça renferme les piliers de la foi, la croyance en Allah Azza wa Jalla au jour dernier, aux livres révélés, aux anges, etc. Na'am.
فإذا اجتمع ذلك استقام طوعا وكرها ولا يستقيم الدين إلا بالتطوع والكره إن كان الإنسان كلما كره من الدين
بالتطوع شو بالطوع
نعم. بالتطوع نعم
بالطوع
بالطوع نعم ولا يستقيم الدين إلا بالطوع والكره إن كان الإنسان كلما كره من الدين شيئا تركه أو شك أن لا يبقى معه شيء من دين الله عز وجل
من دين الله عز وجل
نعم جلي اسكي يكري يلا نعم فلا تقنع لنفسك بقليل من الإيمان ولا تقنع لها بضعيف من العمل ولا ترخص
نعم ici المؤلف رحمه الله تعالى il nous rappelle فإذا اجتمع ذلك استقامت طوعا وكرها ولا يستقيم الدين إلا بالطوع. Eh bien ici, l'âme est ta religion. L'âme, ton âme, est ta religion. Ne pourra goûter à la droiture que par deux éléments. Ici, c'est l'espérance et la peur. C'est la fermeté et la douceur. On ne peut pas ici se baser simplement sur l'espérance de la miséricorde d'Allah tabaraka wa ta'ala, du pardon d'Allah jalla fi'ula, ou alors ici sur la douceur, être doux avec son âme tout le temps, etc. Et on ne peut pas se baser dans notre religion et dans l'éducation de notre âme sur ce qui les oppose, simplement sur la dureté, la fermeté, simplement, ou bien sur la peur, c'est-à-dire les versets coraniques qui parlent de l'enfer, du châtiment, etc. On a besoin des deux. On a besoin des deux. Et c'est pour ça qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans le Coran al-Karim, il parle des deux choses. Et il nous montre ici le style qu'il a utilisé et qu'on doit utiliser quand on parle aux gens. On ne doit pas être ferme avec, dans n'importe quel domaine. Tu parles avec quelqu'un, tu ne peux pas être que ferme. Il faut être ferme quand il y a besoin, il faut être doux aussi. La fermeté seule, eh bien, ne t'apportera rien de bien. Et la douceur seule, sans jamais de fermeté, n'apportera jamais rien de bien. Et quand je dis fermeté, ce n'est pas de la violence ou de la dureté, c'est de la fermeté. Quelque part, quelquefois, on a besoin de fermeté, d'être ferme, simplement. Quand tu éduques, quand tu t'éduques, quand tu prends un engagement, quand tu prends une responsabilité, il faut être ferme. Et c'est une qualité, ce n'est pas un défaut. Et pareil, quand tu vas parler de religion, tu ne vas pas parler que de l'enfer, du châtiment. La personne va être craintive, elle va se dire en fin de compte, c'est qui ? C'est un Dieu miséricordieux ou c'est un Dieu qui est méchant ? Allah tabaraka wa ta'ala, sa miséricorde dépasse sa colère. Tous les versets coraniques, on les débute par Bismillahirrahmanirrahim. Donc à la base, on parle normalement plus de miséricorde que tout ce qui concerne la peur, le châtiment, l'enfer. Et après, ça peut être du cas par cas. Quelquefois, il faut rééquilibrer la balance. Mais en général, l'être humain, l'âme, et dans ta pratique religieuse, tu dois allier les deux. Rappeler que Dieu, bien sûr, peut être dur en punition, mais que Dieu est miséricordieux et sa miséricorde dépasse sa colère. Et voilà pourquoi le prophète a dit « Si l'un d'entre vous meurt, qu'il ne meure qu'en ayant husnu adhan billahi azza wa jal. » Le prophète, il te donne déjà un cadeau. C'est comme s'il t'a facilité la fin de ton examen. Le principal, ce qui rapporte le plus de points, le plus gros coef. Il te dit quand tu meurs, « Innamal a'malu bi al-khawatim » Les actions ne valent que par la fin. Il dit quand tu meurs, surtout, meurs avec le bon soupçon d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire, c'est en étant convaincu qu'Allah te fera miséricorde. Mais en ayant peur quand même des conséquences de tes péchés. Mais je suis convaincu que je vais rencontrer le miséricordieux par excellence. Et mon Seigneur, c'est le miséricordieux. C'est le prophète qui nous dit. Et Allah Azza wa Jal veut que tu aies ce bon soupçon de lui. Allah Azza wa Jal, il veut cela, que tu aies le bon soupçon d'Allah. Et celui qui meurt avec ce bon soupçon sera préservé et pardonné. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Alhamdulillah. Tu es dans As-Sakarat ou Al-Kurubat, à l'agonie de la mort, rappelle-toi de ça. Dis, bien sûr, on ne doit pas être à l'abri de nos méfaits. La preuve qu'on doit toujours allier les deux. Mais qu'est-ce qui doit prendre le dessus ? Allah me pardonnera, j'en suis sûr, incha'Allah ta'ala. Car il est trop bon, il est trop miséricordieux. Il pardonne les péchés. Subhanallah, quand on voit dans le hadith sahih, où la personne a dit à ses enfants, prenez-moi quand je vais mourir, brûlez-moi, prenez mes cendres, éparpillez-les dans les mers. Certains savants, ils ont dit que c'était du kufr. Pourquoi ? Pourquoi c'est du kufr ça ? Hein ? Là ? Là, laisse sous Adhan. Pourquoi du couvre sous Adhan? Ce n'est pas l'insan qui va désespérer de la miséricorde d'Allah. Il n'est pas tombé dans le couvre pour autant. Non, pas l'incinération. Ça ne fait pas toi un mécréant en incinération. Ahsant. Il a eu le doute. On pourrait dire cela. C'est-à-dire qu'il s'est dit qu'en me brûlant, en prenant mes cendres, je ne vais pas ressusciter devant Allah. C'était le but. C'est pour ça qu'il a dit à ses enfants, tellement qu'il a eu peur de Dieu, il s'est dit, moi je vais me débarrasser du jugement et de tout. Donc il a renié quelque part la croyance au jour du jugement dernier. Ça c'est du kufr. Les piliers de l'Iman, c'est croire au jour de la résurrection. Il a dit, brûlez mon corps, prenez les cendres, éparpillez-les. Quand il a ressuscité devant Allah subhanahu wa ta'ala et Allah jalla wa ala, que tu meurs comme tu veux, il te ressuscitera et cela est très facile pour Allah jalla wa ala. Eh bien, qu'est-ce qu'il dira devant son Seigneur tabaraka wa ta'ala ? Ya Allah, j'ai tellement eu peur de te rencontrer que j'ai dit à mes enfants de faire ça. Je leur ai dit de faire ça parce que j'avais peur de ce jour-là de te rencontrer. Donc lui, il a douté dans la résurrection, la possibilité que Dieu le ressuscite. Eh bien, Dieu lui a pardonné, lui a donné le paradis. Après cela, qui va se permettre de juger un tel ou la foulaine ou la allane ? La miséricorde d'Allah, elle est très 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 vaste. Elle est immense. Et voilà pourquoi quand tu meurs, meurs avec cette conviction. Allah, Jalla wa ala, Inch'Allah, il va me pardonner mes péchés. Et ça déjà, ça te rassure. Et là, quand tu pars comme ça, alhamdoulilah, tu es déjà un minimum mutma'in, bien que ça va être extrêmement difficile pour nous toutes et tous, les derniers instants de cette vie d'ici-bas, quand on va quitter le monde. Ça va être très intense. Mais quand tu meurs avec ça et tu te dis, si je meurs avec ce soupçon-là, ce bon soupçon d'Allah, Jalla wa ala, le prophète m'a promis qu'Allah me pardonnerait mes péchés, eh bien, meurs avec ça. Et dit alhamdulillah, inna Allah ghafurur rahim, yaghfiru dhunuba jami'a. Il pardonne tous les péchés à tout le monde. Et tu pars avec cela. Et ça, c'est la fin. Parce que là, tu ne peux plus te lever de ton lit et aller faire des bonnes actions. Donc, ça, tu le dis quand ? Quand tu es à la fin, là, ça y est, la fiche d'examen va être relevée. Ce n'est pas quand tu es en pleine forme. Quand tu es en pleine forme, dis-le. mais œuvre. Mais œuvre. Mais quand tu es en fin de vie, ça y est, tu ne peux plus œuvrer. Dis-le, c'est tout, et aie ce soupçon bon vis-à-vis de ton Seigneur, tabaraka wa ta'ala. Hein? Donc ça, c'est deux choses importantes. Yallah,
wala turakhis. Wala turakhis, wala turakhis laha fi qalilin min ma'asiyatillahi azza wa jal. Wala ta'idha bi shay'in min astikhlas,
من استحلال الحرام.
من استحلال الحرام فإن النفس إذا أطمعت طمعت وإذا أيستها أيست وإذا أقنعتها قنعت إذا أرخيت لها طغت وإذا زجرتها إن زجرت وإذا عزمت عليها أطاعت وإذا فوضت لها
إليها
وإذا فوضت إليها أساءت وإذا حملتها على أمر الله صلحت وإذا تركت الأمر إليها فسدت فاحذر نفسك واتهمها على دينك وأنزلها منزلة من لا حاجة له فيها ولا بد منها فإن لا حاجة لك في باطلها ولا بد لك من تهمتها ولا تغفلها عن الزجر فتفسد عليك ولا تأمنها فتغلبك فإنه من قوم نفسه لك فإن من قوم نفسه حتى تستقيم فبالحري أن ينفع نفسه وغيرها.
نعم. Ici il rappelle que l'âme sera selon ce que tu lui auras donné comme éducation, tout simplement. Tu la laisses aller, eh bien, elle se laissera aller. Tu l'éduques, elle sera éduquée. Tu la corrompes, elle sera corrompue. Tu es ferme avec elle, elle sera ferme. Tu es trop doux avec elle, elle sera trop doux. Tu es trop laxiste avec elle, elle sera trop laxiste. Tu es trop extrémiste avec elle, elle sera extrémiste. C'est selon tes efforts. En tout cas, ici, il te rappelle, ici, accuse-la. C'est-à-dire, il rappelle que c'est comme un ennemi. Et voilà pourquoi le prophète, il a dit, comme on l'avait cité précédemment, Al-mujahidu man jahada nafsa. Le vrai combattant, le grand combattant, c'est celui qui combat son âme. Donc c'est un combat de tous les jours. Voilà pourquoi c'est le plus grand des combats. Tous les jours, le matin, le soir, elle t'accompagne. Donc tous les jours, 24 sur 24, tu es dans un combat. C'est pour ça qu'on dit le plus grand des combats, c'est jihad ou nafs. C'est le combat contre son âme. Et tu ne dois jamais être trop sûr de toi, trop confiant en te disant « c'est bon, je suis bien, je suis bon, je suis ». Non, accuse-la toujours. Et reste toujours sur tes gardes avec ton âme et fais travailler ta raison, ta foi, afin de l'éduquer sans aucun relâche. نعم فالحري أن ينفع نفسه وغيرها ومن غلبته نفسه
ومن غلبته نفسه فانفس الناس أحرى أن تغلبه وكيف لا يضعف وكيف لا يضعف عن أنفس الناس وقد ضعف عن نفسه وكيف يؤمن على شيء من النفس وهو متهم على نفسه وكيف يهتدى بمن قد أضل نفسه وكيف يرجى من قد حرم حظ نفسه يا بني ثقفهم بالحكمة واستعن بما فيها فإن وافقك الهوى أو خالفك فاصبر نفسك للحق وكن من أهل الحكم فإن الحكيم يذل نفسه بالمكاره حتى تعترف بالحق وإن الأحمق يخير نفسه في الأخلاق فما أحبت منها أحب وما كرهت منها كره قال أبو بكر يعقلوا رحمكم الله عن لقمان الحكيم ما تسمعون اعلموا أنه من لم يحسن أن يكون طبيبا لنفسه لم يصلح أن يكون طبيبا لنفسه غير لم يصلح أن يكون طبيبا لنفس غيره ومن لم يحسن أن يؤدب نفسه لم يحسن أن يؤدب نفس غيره.
نعم. Ici le mu'allif, il rappelle une chose essentielle, et ça c'est une règle générale. Ici qu'on retrouve aussi dans le verset coranique, يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Préservez vos personnes et vos familles du feu. Il est impossible, il est impensable, il est improbable qu'une personne puisse prétendre ou bien éduquer ou vouloir éduquer une âme alors qu'il n'a pas éduqué son âme, tout simplement. Voilà pourquoi il n'est pas bon de vouloir prendre une personne comme éducateur dont tu sais pertinemment qu'il n'a pas réussi à éduquer son âme à travers son comportement, sa moralité et ses traits de caractère. On avait rappelé dans les cours précédents l'importance d'avoir un véritable éducateur, et un éducateur doit être une personne qui t'aide à évoluer concrètement avec un travail de fond et qui pousse l'être humain à éduquer son âme. Et cet éducateur, s'il n'a pas réussi à éduquer son âme, il ne peut pas éduquer ton âme, dans le fond. Vous imaginez, vous prenez un éducateur qui a un mauvais comportement et qui est quand même, on va dire, attrayant, simplement quand il parle, au moment où il éduque son âme. Faites ça, fais ceci, fais cela, fais ceci, fais cela. Et ensuite, dans la vie de tous les jours, tu vois, il a un comportement grave, aucune attirance. Il insulte, ou il est grossier, ou il fait fuir les gens. Ou alors il agit avec orgueil, aucune modestie. Celui-là est un éducateur. Celui-là, il a beau avoir je ne sais combien de niveaux de science, ou combien de tonnes de science, ou combien de je ne sais quoi de science, celui-là ne le prend pas comme éducateur. Car il est improbable qu'un éducateur puisse être éducateur alors qu'il n'est pas éduqué. Tu dois d'abord t'éduquer toi-même avant d'éduquer les gens. Et si une personne dans la vie de tous les jours n'est pas éduquée, il ne peut pas être un éducateur. Du moins, il n'aura pas un impact vraiment ici concrète chez celles et ceux qui l'éduquent. Il n'y aura pas de tawfiq, il n'y aura pas de résultat vraiment concret. Naam. Wa'lamu annahu man lam ya'rif ma lillahi 'azza wa jalla 'alayhi, tu l'as pas? Fi nafsihi mimma amarahu bihi wa nahahu 'an wa lam ya'khudh nafsahu bi'ilmi dhalik kayfa yasluhu an yu'addaba zawjatahu wa waladahu. Qad akhadha Allahu 'azza wa jalla 'alayhi ta'limahum ma jahiluh. Donc ici il rappelle la même chose. C'est que comment voulez-vous qu'il éduque ou qu'il aide à éduquer l'âme de son épouse ou l'épouse de son époux? Parce que attention, pas croire qu'il n'y a que les hommes qui peuvent aider les femmes à avancer et à évoluer spirituellement ou je ne sais. Les femmes aident les hommes et souvent beaucoup plus. Ici, ils aident beaucoup plus souvent les hommes à évoluer spirituellement. Et voilà pourquoi les plus grands des hommes après les prophètes et les envoyés, eh bien ici, aller chercher cette science, cette nourriture spirituelle chez les plus grandes des femmes, et dont Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, qui a marqué l'histoire de par sa science et sa moralité. Donc il est important ici de savoir, si tu veux avoir un impact dans ta famille, dans tes proches, dans tes enfants, chez les amis, chez les frères, éduque ton âme. Sinon c'est pas possible. Tu as beau faire ce que tu veux, dire ce que tu veux, éduque ton âme, les autres seront éduqués par la suite, incha'Allah ta'ala. Voilà pourquoi beaucoup de personnes se plaignent aujourd'hui en disant, moi je suis par exemple marié avec une femme, ou la femme dit, moi je suis marié avec un homme qui, on ne s'entend pas trop dû au fait qu'il y ait une différence de comportement, ou alors de spiritualité, ou de niveau religieux, ou de je lui parle mais ça ne fait rien. Ne lui parle pas. Éduque ton âme comme on fait as-sahaba radiyallahu anhum wa ardahum, et à leur tête les plus grands comme Abu Bakr radiyallahu anhu wa arda, qui faisait da'wah juste en marchant dans la rue, il récitait le Coran, il pleurait, les gens embrassaient l'islam. Les gens, ils avaient éduqué leur âme, ils n'ont pas besoin de parler. Quand tu as éduqué ton âme, khlas, le reste c'est facile. Il suffit que tu parles un peu, ça va tout seul. Mais quand toi tu parles et que tu n'as pas de crédibilité, à quoi bon parler? Éduque ton âme à travers ton comportement dû à l'éducation de ton âme, et à la droiture de ton âme, tu gagneras les cœurs. Et si ici on éduquait plus notre âme qu'on parle, eh bien on aurait tous des âmes qui seraient droites. Mais malheureusement, on est tous trop tentés à parler plus que éduquer notre propre âme, et on veut éduquer les âmes des gens, et cela est improbable. Et par la suite, il continue en disant que il est impératif de passer par al-ilm, ici la science. Et ici, je termine juste avec un dernier point. C'est à quelle heure, l'Aïcha? À 6, khalas. Donc ici, il rapporte la parole de Qatada, yaqul yabna Adam, in kunta turidu an la ta'ti al-khayra illa ala nashat, fa inna nafsaka إلى سآمة والفطور والكلل أقرب ولكن المؤمن هو العجاج والمؤمن هو المتوقي والمؤمن هو المتشدد وإن المؤمنين هم الجأرون. Il y a deux versions ici. الجأج والجأرون إلى الله عز وجل بالليل والنهار والله ما زال المؤمنون يقولون ربنا ربنا في السر وعلانية حتى استجاب لهم. Donc المؤلف رحمه الله تعالى il rappelle que si tu veux faire le bien avec ardeur, avec vitalité, avec facilité, tu aimerais bien faire cela, toujours le bien, vers des bonnes actions, faire la prière, faire le jeûne, facilement, avec facilité, avec cette ardeur-là, eh bien il dit, sache que l'âme est plus proche de l'inverse, la paresse, la lourdeur, la fatigue, l'indifférence, l'insouciance. Il te rappelle qu'il ne faut pas rêver. Si tu crois que dans tous les actes d'adoration, tu vas le faire facilement, le but c'est cela. Mais ne crois pas que tu vas réussir à faire tous les actes d'adoration facilement. L'âme est comme ça, il te rappelle encore, l'âme elle est lourde. Et plus tu la laisses aller, plus elle devient lourde. Et ça devient comme un boulet que tu traînes. Donc quelquefois, ici on voit très bien quand on se lève pour Salat al-Fajr, on ne se lève pas, voilà, tout heureux, etc. Certaines personnes, Allah al-Musta'an, tu réveilles le matin, il faut s'écarter pendant 20 minutes de lui parce qu'il est tellement nerveux. Bien sûr, c'est blâmable. Mais à la base, il y a des moments, c'est vrai, où il est beaucoup plus difficile, on sent que l'âme est lourde. D'accord ? Et celui qui a cette lourdeur de temps en temps, eh bien, c'est quelque chose de naturel. Ce qui lui est demandé, c'est de combattre cette lourdeur. Et c'est ça, sinon ça serait trop facile. Si Dieu avait fait qu'on avait une âme qui était toujours qui aspirait à l'ardeur, à la facilité, à nashat, ça serait trop facile. Salat al-Fajr, tu entendrais le réveil, directement Dieu aurait soumis ton âme, tu te lèverais facilement. Il est où l'examen ? Elle est où l'épreuve ? Il est où le test ? Vous comprenez ? Donc le fait que Dieu nous a donné cette âme-là, qui à la base est comme ça, c'est pour nous tester aussi. Pour voir est-ce que vraiment on mérite ou pas ? Est-ce que tu as combattu ou pas ? Est-ce que tu as fait un effort ou pas ? Mais c'est facile, comme le proverbe le dit, la descente aux enfers, la montée au paradis. Pourquoi ? Même le proverbe le dit. Peut-être qu'il est chrétien même le proverbe. Pourquoi ? Parce que quand tu te laisses aller, la descente aux enfers, si tu te laisses aller, c'est facile de se laisser aller, tout le monde se laisse aller. Pourquoi on dit le véritable fort, comme le prophète alayhi afdalus salat wa taslim a dit ? C'est celui qui quoi ? Qui maîtrise sa colère. Parce que celui-là, il est fort, parce qu'il a eu, il a eu face à lui, ici, un adversaire de taille. Un des plus grands adversaires, c'est qui ? Un nefs, l'âme. Et s'il arrive à maîtriser sa colère, c'est qu'il a gagné une bataille. C'est lui le fort ou pas ? Celui qui gagne une bataille, il est fort ou pas ? Celui qui a perdu la bataille, un combat, c'est lui qui est le plus faible. Celui qui va se mettre en colère, est-ce qu'il a réussi à maintenir son âme ? Non. Donc il a perdu, donc il est faible. Donc le fort, c'est pas celui qui terrasse les gens comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit, mais c'est celui qui maîtrise la colère. Et quand tu veux savoir si une personne est faible ou forte, eh bien regarde comment il a éduqué son âme. Regarde sa droiture, regarde son comportement, regarde ses actes d'adoration, regarde son implication, regarde son comportement et tu lui diras, celui-là est fort et celui-là est faible. Mais maintenant nous on sait même plus où mettre le curseur. Encore tout dans l'apparence, celui-là est musclé et fort, celui-là est tout maigre comme un fil de fer, il est faible. Ça n'a rien à voir. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu warda, une fois est monté dans un arbre, un palmier, il y a eu un coup de vent, son kamis s'est levé un peu et il y a des compagnons qui ont ri un peu. Pourquoi ? Par rapport à la finesse des jambes de Abdullah ibn Mas'ud. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, pourquoi vous riez ? Je dis, ya Rasulallah, c'est juste on a été pris un peu de rire. C'était des compagnons, c'est des humains. Hein. Certaines personnes, quand ils sont musulmans, on a l'impression qu'il n'y a plus le droit de sourire, plus rien. Ils regardent tout le monde méfiant, on dirait que tout le monde c'est ses ennemis, il ne vit plus. Sahaba, les meilleurs des chrétiens, ont rigolé. Bien sûr, ce n'était pas bon à faire, mais voilà, ils sont emportés, c'est des humains, voilà. Je dis, ya Rasulallah, on a rigolé parce que les fines jambes de Abdullah ibn Mas'ud, le prophète, il a dit, Wallahi, Walladhi nafsi biyadih, par celui qui détient mon âme dans sa main. Si on mettait. Ou au jour de la résurrection, les deux jambes fines de Abdullah ibn Mas'ud seront plus lourdes que Jabal Uhud, la montagne de Uhud, en bonne action, en hasanat. Donc ça, c'est la personne qui a réussi à quoi ? À combattre son âme. Donc, ton âme ne sera pas toujours attirée à faire le bien. C'est quelque chose de tout à fait naturel. Mutawaqqi, c'est méfiant. D'accord ? Il faut rester méfiant et il faut s'écarter de tout ce qui attire l'âme vers le mal. Mutashaddid. Pourquoi il a dit mutashaddid ? Pourtant, mutashaddid, c'est quoi ? C'est quelqu'un de dur. Quand on dit mutashaddid, c'est quelqu'un d'extrême quelquefois. Non, là, il parle de fermeté, attention. Parce qu'être ferme quand il le faut, c'est bon. Mais être ferme, de sorte que ça te pousse vers la dureté, et l'excès, et l'exagération, et la violence, eh bien, cela est blâmable. Mais être ferme, ça, c'est demandé. Donc, voilà ce qui est visé ici, d'être ferme aussi avec son âme. Et Al-Ja'arun, ici, c'est qui proclame, c'est quelqu'un qui fait beaucoup d'invocations, de dua, et qui insiste dans le dua. Il termine l'épître Al-Risala avec quoi? Avec dua. Il a commencé Al-Risala, l'imam Al-Ajurri, rahimahullah ta'ala, avec quoi? Avec Al-Dua. Parce que Al-Dua, هو العبادة, comme a dit Ali sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'adoration même. Et il n'y a pas de réussite sans Al-Dua, parce qu'il n'y a pas de tawfiq, il n'y a pas de réussite sans l'aide et l'assistance d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et si tu délaisses le dua, eh bien tu as délaissé Allah jalla fi'ula. Et voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wasalam a dit: man lam yas'alillah yaghdab alay. Celui qui ne demande pas à Dieu, Dieu se met en colère. Parce que c'est comme si tu disais: Dieu, je n'ai pas besoin de te demander, je n'ai pas besoin de toi. Et on a besoin de Dieu. Et si tu veux prouver que tu as besoin de Dieu et que tu veux l'assistance de Dieu, l'assistance de Dieu, c'est ad-du'a. Voilà pourquoi dans les 5 prières tous les jours, on dit quoi? Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Vous connaissez ici Madarij al-Salikin, l'explication qu'a fait Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala de Madarij al-Sa'irin. Il a fait 4 ou 5 tomes qui est une référence dans l'éducation de la spiritualité aujourd'hui, les sentiers des itinérants. 4 ou 5 tomes il a fait Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Vous savez c'est sur quoi il a fait ces 4 ou 5 tomes? Sur quoi? Sur Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Il a écrit 4 ou 5 tomes qui sont une référence dans l'éducation de l'âme sur un verset: Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in. Et des gens maintenant, si tu lui dis juste parle-moi 30 secondes de Iyyaka na'bud wa Iyyaka nasta'in, peut-être 30 secondes il ne sait pas parler. Mais par contre, parler des gens, il te parle pendant 10 heures. Après, il dit: je vais éduquer mon âme. Tu vas éduquer rih, le vent. Ton âme, elle t'a déjà plié, elle t'a déjà soumis. Va apprendre ta religion, va apprendre ce qu'est Iyyaka na'bud, Iyyaka nasta'in. Va purifier ton âme, ton intérieur. Tu vas goûter à la douceur de l'iman et tu vas te préoccuper à toi plutôt que de te préoccuper aux gens. Et tu vas délaisser la vie des gens plutôt que... Et voilà comme ça que tu vas évoluer, incha'Allah ta'ala. Et il termine en disant: Yaqouloun, les pieux vertueux qui ont éduqué leur âme, Rabbana, Rabbana. Pourquoi il dit notre Seigneur à deux reprises? Rabbana, Rabbana, fi sirri wa la alaniya, hatta stajaba lahum. Et il termine avec cela. Notre Seigneur, ici, dans, de façon secrète ou ouverte, jusqu'à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala ait répondu à leur invocation. Et c'est ce qu'on appelle al-ilhah. Allah tabaraka wa ta'ala veut qu'on l'invoque avec fermeté, avec insistance. C'est pas simplement de temps en temps où je regarde ma montre à droite et à gauche où j'ai fait dua une fois. Tous les jours, toutes tes prières, invoque Allah tabaraka wa ta'ala avec insistance. Le prophète alayhi salatu wa sallam dans Sahihain a dit: l'un de vous ne doit pas invoquer Allah tabaraka wa ta'ala en disant: ya Allah, si tu veux, pardonne-moi. Inshit. Si tu veux, pardonne-moi. Si tu veux, accorde-moi ta miséricorde. Il doit plutôt être ferme dans sa demande et donner de l'importance à son vœu, car rien ne peut contraindre Allah tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi certains savants détestent qu'on dise une dua en disant après par la suite Inch'Allah. Allah yaghfir lana Inch'Allah. Allah yashafik Inch'Allah. Wallah yashafina Inch'Allah. Délaisse Inch'Allah. Pourquoi? Le prophète alayhi salatu wasalam nous a rappelé qu'on doit invoquer avec insistance, et il dit: il ne doit pas invoquer en disant si tu veux. Tout est Inch'Allah. Et là, c'est comme si tu disais: Allah, si tu veux. Allah, il a pris sa décision. Ud'uni astajib lakum. Allah, il a dit: invoquez-moi, je vais répondre à votre invocation. Pourquoi tu dis Inch'Allah? C'est une décision prise d'Allah Jalla wa'ala. Et le prophète fait sahih, il a dit 3 situations. Soit Allah, il t'accepte ton invocation. Soit il devait t'arriver un malheur. De par l'invocation, Allah, il t'a écarté de ce malheur. Ou soit, eh bien, il te garde ici la rétribution pour le jour de la résurrection. Voilà pourquoi Aïcha radiyallahu anha wa ardaha, un jour une personne nécessiteuse a frappé à sa porte, elle a ouvert la porte, elle lui a donné de la nourriture, il a levé les mains, il allait invoquer pour elle, elle a tout de suite fermé la porte. Quand on l'a interrogé sur cela, elle a dit: j'ai eu peur qu'Allah jalla wa ala me rétribue à travers son invocation, je préfère avoir ma rétribution au jour de la résurrection. Elle dit, il voyait l'au-delà. Nous maintenant on dit non, j'ai le choix, un malheur ou le jour de la résurrection, ou Allah il m'exauce. Allez, au mieux on va dire un malheur. Qui va nous dire le jour de la résurrection? On veut tout de suite, renvoie maintenant. Ah, au jour de la résurrection on verra après. Aïcha, juste dua, elle s'est dit peut-être il va dire une dua pour moi, ça va être ma récompense parce que ce que je lui ai donné. Elle dit, non, non, je préfère rien entendre. Moi, je veux ma récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Et voilà pourquoi il est important d'insister dans ad-du'a. Et celui qui ne connaît pas l'invocation par cœur que le prophète alayhi salatu wassalam faisait pour purifier l'âme, alors je ne comprends pas comment il peut prétendre vouloir vraiment purifier son âme. Et vous la connaissez tous. C'est quoi l'invocation ? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Le prophète faisait cette invocation pour qu'Allah purifie son âme. Et voilà pourquoi il est important de purifier son âme à travers ad-du'a, de jour comme des nuits. Et c'est un des plus grands moyens qui t'apportera la réussite et le succès ici-bas et dans le-delà, dans tous les domaines. C'est quoi ? Ad-du'a. Et ainsi, on a terminé l'explication ici de l'épître de l'imam Al-Ajurri sur l'éducation de l'âme. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu ahkam. Alhamdulillahi rabbil alamin.